mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
L'open mic qui se fait sans Audrey Pinchot aujourd'hui et demain. Audrey qui profite de vacances bien méritées sur la Côte-Nord pour débuter la semaine sera de retour mercredi dans l'open mic et dans Gravel dans le retour. Et spécialement, on a deux entrevues d'open mic aujourd'hui. Dans une 15-20 de minutes, on va discuter avec Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Mais tout de suite, le Québec qui risque d'être la province canadienne la plus touchée par le cancer cette année. C'est du moins ce que projette un rapport de la Société canadienne du cancer. Et pour en parler, Dr. Denis Soulière, le porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, est au bout du fil. Dr. Soulière, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Le Québec, selon les projections, va afficher le taux d'incidence de cancer le plus élevé du Canada cette année. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces données-là dans le concret?
Oui. En fait, le rapport va statuer sur deux choses principales. De un, on parle de l'impact global du cancer. Donc, le nombre de cas de cancer au Canada demeure en progression. Le nombre de décès aussi par cancer demeure en progression. Et en conséquence, le cancer demeure la première cause de mortalité partout au Canada. Et d'ailleurs, pour faire le lien à ce que vous disiez par rapport au Québec, on savait déjà il y a 27 ans de ça que c'était la première province à afficher la plus grande cause de mortalité comme étant le cancer au Québec. Et par la suite, ça a été le cas dans la plupart des provinces. Donc, l'autre élément important qui ressort du rapport, c'est l'incidence du cancer. Vous l'avez mentionné, donc le nombre de cas par 100 000 de population qu'il va y avoir. Donc, c'est un peu... quand on regarde le nombre total, c'est un peu l'impact sur la population au complet. Quand on regarde l'incidence, c'est un peu le risque individuel que l'on a. Et les risques individuels au Québec sont plus élevés que ce qu'on retrouve dans la moyenne canadienne. De façon générale, d'à peu près 10 à 20 là, dépendant de la province avec laquelle on se compare. On ne peut pas, par un rapport comme celui-là, dire pourquoi l'incidence est plus élevée au Québec qu'ailleurs, mais on sait que c'est une incidence qui est présente maintenant à un niveau que l'on peut mesurer adéquatement, parce qu'auparavant, les données québécoises n'étaient pas partagées aussi adéquatement avec le reste du Canada dans ce rapport annuel, faisant en sorte que maintenant, on a vraiment une image qui est assez adéquate de ce qu'est la vraie situation du Québec et qu'on va pouvoir suivre pour les prochaines années aussi.
Vous dites, Dr. Soulière, qu'on peut pas vraiment savoir pourquoi le Québec est plus touché, mais c'est quand même une question qui doit être sur toutes les lèvres présentement. T'sais, je veux dire, le cancer choisit pas à qui il s'attaque. C'est sûr que les gens se demandent pourquoi le Québec est touché davantage. Est-ce qu'on a au moins des hypothèses, des pistes de réponse?
Tout à fait, vous avez la bonne question ici. Donc, c'est la grande question qui vient derrière ça. On sait que le Québec, comme le reste des provinces de l'Est, sont plus affectés par le cancer. Donc, est-ce qu'il y a des événements environnementaux dans ce contexte-là? Ça, c'est un pan de recherche en soi. On sait aussi, par contre, que le tabagisme a été plus élevé pendant de nombreuses décennies, malheureusement, au Québec par rapport ailleurs au reste du Canada. Et le fait de ce tabagisme-là, même s'il est plus ancien, même s'il a régressé significativement, laisse des traces et fait en sorte que ce risque-là, ce facteur de risque-là, continue bien des années, même après l'arrêt du tabagisme pour les personnes individuellement et pour la population au global. Donc, ça, c'est un des éléments principaux. Hein. Vous savez, dans les grands facteurs de risque d'avoir le cancer, c'est l'âge qui demeure le premier facteur. Donc, plus on est en âge, plus on a un risque d'avoir le cancer. Mais le tabagisme se classe deuxième, à savoir que c'est probablement le facteur de risque, qui est d'ailleurs un facteur de risque modifiable, qui explique le plus pourquoi on a un risque de développer un cancer.
Vous avez mentionné l'âge, Dr. Soulière. On dit souvent que le Québec est une province très vieillissante. Ça mène à vous demander la situation, là, est-ce qu'on s'attend à ce que ça s'aggrave encore davantage dans les prochaines années?
Oui, donc les taux d'incidence qui ont été rapportés sont des taux normalisés pour l'âge. C'est-à-dire que on compare, là, c'est comme si la population avait le même âge partout au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Mais effectivement, le fait de la vieillissement de la population qui est plus marqué dans certaines provinces que dans d'autres n'est pas rapporté aussi bien par l'incidence. Donc, c'est pour ça qu'on se ramène au nombre de cas qu'il y a dans la population. Et si on regarde ça, effectivement, on peut présumer du fait que le Québec va avoir un nombre plus grand au total que par capita que d'autres provinces, compte tenu du fait qu'on a une population qui, globalement, est plus vieille que, par exemple, l'Ontario, que, par exemple, la Colombie-Britannique. C'est peut-être pas vrai pour d'autres provinces comme le Terre-Neuve-Labrador et l'île du Prince-Édouard, mais on parle ici de beaucoup plus petites populations. Donc, effectivement, on doit, pour une population, pour être capable de suivre ce qui se passe, être capable de normaliser pour l'âge, mais on doit aussi regarder le nombre total pour être capable d'ajuster notre système de santé et d'être capable d'offrir des soins conséquents à tous ceux qui auront un diagnostic de cancer au cours des prochaines années.
Quand on parle d'offrir des soins conséquents, j'imagine que ça commence avant même, malheureusement, le diagnostic avec... Le diagnostic, le fait d'aller faire les tests nécessaires, est-ce que les chiffres qu'on a aujourd'hui, ça devrait servir de wake-up call pour le gouvernement du Québec?
On a trois éléments sur lesquels vous venez d'insister. Donc, un, la prévention. Qu'est-ce qu'on devrait faire de plus en termes de prévention? Est-ce qu'on a fait assez pour courber le tabagisme qui est associé à un très grand nombre de types de cancers et pas simplement au cancer du poumon? Est-ce que l'on fait assez avec le dépistage du cancer du sein, alors qu'on sait qu'au Québec, pour l'instant, on offre le dépistage à 50 ans plutôt que 40 ans ailleurs au Canada? Est-ce que l'on fait assez pour faire en sorte que l'on détecte plus précocement un plus grand nombre de cancers du côlon et du rectum que ce que l'on fait actuellement? Ce sont toutes des questions qui sont essentielles en termes de ce que l'on fait en prévention et en dépistage. Mais vient aussi toute la composante des traitements. Est-ce qu'on a un système qui est assez bien constitué, une hiérarchie assez adéquate? Est-ce qu'on a un accès au traitement qui est suffisant pour être capable de faire en sorte que l'on va, malgré les grands nombres, être capable de continuer à faire réduire la mortalité qui est liée par cancer? Parce que un des bons éléments de ce rapport, c'est qu'on trouve que malgré le nombre grandissant de cas, il y a une mortalité par cancer qui a diminué. Donc, alors qu'auparavant, on était à environ 30 % des gens qui avaient un diagnostic qui décédaient, on est aux environs maintenant de 22 %. Il y a des variations un peu partout au Canada. C'est plus élevé au Québec que ce peut l'être en Ontario, mais globalement, le taux de mortalité par cancer au Québec a aussi diminué. Donc ça, c'est un élément qui va quand même dans le bon sens et qu'on doit reconnaître derrière tout ça, faisant en sorte qu'on voit qu'il y a des avancées, mais avancées qui peuvent être mises en danger par les volumes de nombre de gens qui vont avoir le cancer dans les prochaines années.
On parlait du dépistage du cancer du sein. On dirait que ça fait des années qu'on parle de le devancer. Pourquoi ça ne s'est pas encore fait?
Je serais malheureusement pas bien placé pour vous en parler. Les gens qui sont dans les rôles de décision par rapport à ça seront plus à même de le discuter. Il y a des rapports qui ont été établis tant au niveau canadien qu'à niveau international. Dans d'autres provinces, ils ont agi rapidement pour être capables de faire en sorte que ce dépistage soit modifié. Au Québec, il y a deux rapports qui, dans le courant de l'automne, ont été dans le même sens, de favoriser au moins à 45 ans, sinon à 40 ans. Donc, les annonces du gouvernement sont en attente depuis ce temps, malgré qu'on les annonçait pour être seulement dans quelques semaines. Ça fait maintenant une couple de mois que ces rapports sont sortis.
Les chiffres concernant le cancer du col de l'utérus qui font aussi la manchette, puis tu sais, on parlait de solutions, de façons de faire qui pourraient nous aider à mieux contrer le cancer, à prévenir des cas de cancer. Dans le cas du col de l'utérus, c'est très, très, très concret parce qu'on parle d'un vaccin.
Oui, un vaccin parce qu'on sait que le cancer du col de l'utérus est lié à un facteur de risque en particulier qui est l'exposition ou une infection avec le virus du papillome humain, le VPH. Il y a une vaccination qui existe, qui a commencé à être donnée il y a de cela à peu près 15 à 20 ans dans les écoles. Vous vous souviendrez qu'il y a eu de larges campagnes de médiatisation qui étaient faites à ce moment-là pour assurer que la vaccination soit faite. Et ces gens-là vont donc arrivent en âge où ils risqueraient de développer un cancer du col et on devrait voir l'effet de la vaccination probablement dans les prochaines années. Ce n'est pas encore le cas malheureusement pour l'instant. On voit que les données stagnent pour l'instant en termes de l'incidence du nombre de cas de cancer du col de l'utérus et de la mortalité qui est associée. Donc, il faut qu'on se rabatte sur le fait que le dépistage que l'on fait actuellement par le test PAP ou un autre test, le test VPH qui peut être fait maintenant, qui est encore plus adéquat, ne rejoint pas une grande partie de la population féminine qui devrait passer ces tests-là pour qu'on puisse détecter les lésions précoces, c'est-à-dire les lésions précancéreuses et le cancer du col à un stade très précoce si jamais effectivement il s'est déjà développé. Donc, je pense que c'est un wake-up call, on me permettra l'expression anglophone pour dire que malgré le vaccin, on ne va pas venir à bout de cette maladie pour l'éliminer, parce qu'on a vraiment un potentiel d'éliminer ce type de cancer-là. C'est pas quelque chose que l'on peut dire pour bien d'autres types de cancers. Donc, pour l'éliminer, on doit autant faire vers la vaccination que vers le dépistage, qui doit être vraiment accentué, surtout pour ce dernier, qui a probablement été déficient avec une adhésion qui n'est pas conséquente à ce qui est nécessaire pour réduire le nombre de cas.
Si on veut être positif, Dr Soulière, vous avez mentionné tantôt que le taux de mortalité était en baisse, donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. La recherche là, sur le cancer, à quel point elle avance encore en 2025 pour qu'on soit capable de mieux le combattre?
Bien, je vais vous donner un exemple. Une patiente qui, par exemple, avait un cancer du sein métastatique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne guérira pas, mais qu'on peut contrôler la maladie pour du temps, pour un certain temps. Il y a 30 ans, quand j'étais en résidence et commençais ma pratique, la survie médiane de ces gens-là était de 12 mois et est maintenant de 36 mois. Donc, clairement, on n'a pas offert une cure à ces gens-là, mais on a vraiment augmenté de beaucoup la probabilité de survivre à un cancer, même dans une phase avancée. Et c'est aussi vrai pour le traitement des cancers dans les phases plus précoces. Donc, il y a franchement des avancées. Au cours des 10 dernières années, même des 15 dernières années, c'est l'arrivée de l'immunothérapie qui a changé vraiment la donne pour plusieurs types de cancers, dont le cancer du poumon, mais aussi des thérapies ciblées, faisant en sorte qu'on découvre de plus en plus par la génétique des anomalies moléculaires qui font en sorte qu'on peut traiter plus adéquatement un certain nombre de cancers. Donc, à chaque fois maintenant, on est dans des petits pas. Hein. On va vraiment augmenter la capacité de ce qu'on peut faire pour des plus petits nombres de patients parce qu'on va découvrir ce que sont les anomalies de petits nombres de cancers et qu'on développe des médicaments pour cette anomalie-là. Donc, on n'est pas dans les grandes avancées comme l'arrivée des premiers médicaments de chimiothérapie et la radiothérapie qui ont changé beaucoup la donne pour un grand nombre de gens. Maintenant, on est vraiment dans un contexte où on fait des petites avancées à chaque fois, à chaque nouveau médicament qui est indiqué dans la thérapie qu'on peut offrir aux patients.
En terminant, Dr Denis Soulière, quel message la Société canadienne du cancer voudrait lancer à la population aujourd'hui alors qu'on a ces chiffres-là qui sortent au grand jour?
Bien, les chiffres ne sont pas là pour inquiéter. Ils sont là pour informer et pour faire bien comprendre à la population que le cancer demeure la première cause de mortalité au Canada et que il faut qu'on ait une insistance auprès de chacun individuellement pour tenter de réduire la probabilité de développer un cancer, mais aussi en termes de nos gouvernements pour mieux outiller nos systèmes de santé pour faire en sorte que l'on va vraiment être en mesure de s'occuper de tous ces gens qui, avec la population grandissante et vieillissante, vont avoir un cancer au cours des prochaines années.
Dr Denis Soulière, le porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Merci. Au revoir.
Bye bye. Au retour de pas grand-chose, je vous dirais, dans quelques secondes, Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, sera au bout du fil avec nous. Il signe une lettre ouverte dans le Journal de Québec pour faire valoir des préoccupations concernant les effets de la loi 2 sur les soins aux patients. Fait qu'il y a une autre couche de mécontentement ou du moins d'inquiétude envers cette fameuse loi 2 de Christian Dubé portant, entre autres, sur la rémunération des médecins. Pierre Lynch dans quelques secondes. Le Pit Stop, le duo gravel.